Bonjour et bienvenue, vous écoutez Simple et Cité, le podcast pour une vie plus simple et sereine dans le monde moderne. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est assez classique dans le minimalisme, qui est le désencombrement. Pourquoi trier les objets que l'on possède? Quel est l'intérêt de posséder moins pour votre quotidien? Donc on va parler de tout ça, et je vais aussi vous présenter des méthodes de tri issues de livres dédiés à ce sujet. Alors, il y a quelques années, j'ai commencé ma carrière chez un éditeur de jeux vidéo. Et je me souviens qu'à l'époque, l'ancien directeur de la communication nous racontait une légende urbaine à propos d'un jeu E.T. qui était sorti dans les années 80. Il nous racontait que l'éditeur de l'époque aurait enterré des dizaines de milliers de cartouches dans le désert pour ne plus avoir à payer le coût de stockage de tous ses invendus. Et quelques années plus tard, j'ai repensé à lui. Parce que les cartouches en question ont effectivement été retrouvées dans le désert aux États-Unis, et la découverte a fait la une de la presse de jeux vidéo. Sa légende urbaine était en fait tout à fait vraie. Alors pourquoi une entreprise irait s'amuser à enterrer sa propre marchandise dans le désert? Alors que finalement, elle a coûté du temps, de l'énergie, de l'argent à fabriquer, à transporter en premier lieu, c'est-à-dire qu'ils l'avaient déjà payée, elle leur appartenait cette marchandise. Parce qu'en fait, stocker ce genre de marchandises coûte très cher. Un stock de plusieurs milliers d'invendus peut vite mettre une petite entreprise en difficulté financière, par exemple. Et même pour une grosse entreprise, la gestion des stocks, c'est vraiment quelque chose de crucial parce que ça peut vite coûter très cher. Alors, l'émission d'aujourd'hui ne vise pas à vous donner un cours de logistique marchande, mais je repense souvent à cette anecdote comme une sorte de leçon de vie, finalement. Parce que nous aussi, chez nous, un objet que l'on achète et que l'on stocke à la maison n'est pas gratuit pour autant. Il continue à nous coûter, que ce soit de l'espace de stockage, du temps et de l'énergie, quand on fait le ménage, quand on range, quand on doit entretenir, quand on doit réparer ces objets, ou quand on doit fournir le nécessaire pour que ça continue à marcher, par exemple des piles qu'il faut continuer à mettre dans un appareil, de l'essence dans la voiture, ce genre de choses. Alors évidemment, le coût de stockage de nos objets personnels n'est pas comparable à celui d'un entrepôt rempli de cartouches de jeux invendus, mais il n'est quand même pas nul. Il existe ce coût et il est parfois même pas négligeable. À travers le prix, par exemple, qu'on paye un logement, qui est peut-être plus grand que ce dont on a vraiment besoin, et peut-être que si on se débarrassait de la moitié de nos objets, on pourrait vivre dans un logement plus petit. Ou peut-être à travers la location d'un box de stockage, qui est une pratique qui se répand de plus en plus dans les milieux urbains où les logements sont de plus en plus petits. Parce que peut-être que quand j'ai dit ça, vous êtes dit « Ah bah ouais, mais bon, moi j'habite dans un deux pièces, je peux pas vraiment réduire. » Est-ce que vous avez un box de stockage, par exemple? Ou à l'inverse, quand on vit petit, moi j'ai vécu dans un studio, dans un deux pièces, on a d'autant plus envie d'avoir l'espace de circuler, et c'est d'autant plus crucial de pas s'encombrer d'objets inutiles quand on vit dans un très petit espace. Donc là, l'idée, c'est... Avec le minimalisme, la simplicité, c'est de prendre conscience de ce que vous coûtent les objets que vous gardez. Parce que bien souvent, on se dit « Bon, j'en ai pas vraiment besoin, mais maintenant que je l'ai acheté, maintenant qu'il est à la maison, je le possède, il me coûte plus rien. » Mais est-ce qu'il vous coûte vraiment plus rien? Et en fait, quand vous prenez conscience de ça, ça va vous permettre de décider si vos objets valent ce coût-là. C'est-à-dire que vous apportent-ils vraiment dans votre quotidien, ici et maintenant, tous ces objets? Et c'est exactement pour cette raison que dans le minimalisme, on parle souvent de désencombrement. C'est-à-dire que lorsqu'on simplifie sa vie, on se rend compte de tous les objets qu'on garde qui nous sont non seulement pas utiles, mais qui pourrissent notre intérieur et qui pourrissent notre quotidien. Et c'est là qu'on va commencer à faire un tri de tous les objets accumulés au fil des années avec comme objectif d'éliminer le superflu et de ne conserver que l'essentiel. L'idée, c'est que tous ces objets que nous accumulons font de notre maison un entrepôt, voire un dépotoir, si c'est un entrepôt d'objets qui ne sont pas entretenus ni nettoyés correctement. Déjà, ça apporte un certain nombre de petits désagréments, c'est-à-dire que dans un cas un petit peu extrême d'une maison très encombrée, on se cogne contre les meubles, on a du mal à fermer les tiroirs ou les portes de placard, on va essayer d'attraper quelque chose et puis ça fait tomber toute une pile d'objets... C'est compliqué de retrouver ce qu'on cherche et de l'extirper de son espace de rangement. Et tout ça, c'est des petits désagréments quotidiens qui n'ont pas l'air d'être grand-chose, mais qui rendent la vie quotidienne moins pratique, un peu plus irritante, on va dire. Et même si vous n'êtes pas féru de décoration intérieure et d'esthétique intérieure, vous en foutez que votre maison soit belle ou moche, un trop-plein d'objets peut quand même pourrir la vie à travers ces petits désagréments ici et là. Évidemment, ça c'est sans compter le temps que ça prend au quotidien. C'est-à-dire que plus on possède d'objets, plus on a une maison grande, plus ça prend du temps de les chercher, de les trouver, de les nettoyer, de leur trouver une place, de les remettre à leur place, de les entretenir, de les réparer, de les classer, de les organiser, etc., etc. Alors, un exemple hyper flagrant d'objet qui coûte cher à posséder, à garder et à entretenir, c'est la voiture. Alors, je fais exprès de prendre un exemple extrême parce que ça vous montre la manière de réfléchir et qu'on peut adapter ça à d'autres objets plus petits par la suite. Posséder une voiture, c'est quelque chose qui non seulement coûte cher à l'achat, mais qui coûte aussi de l'essence, de l'assurance, des réparations, de l'entretien, le prix d'une place de parking ou d'un garage si vous êtes en ville. Vous voyez bien que au-delà d'avoir acheté l'objet de base, vous avez tout un coût de possession en fait. Alors si vous habitez dans une grande ville et que vous êtes très bien desservi par les transports en commun, c'est peut-être l'occasion de vous débarrasser de la voiture ou de ne pas en acheter. Et là, c'est un des avantages de la simplicité urbaine, c'est que finalement, c'est plus simple de ne pas avoir de voiture quand vous habitez dans une grande ville avec beaucoup de transports en commun que lorsque vous habitez à la campagne. Maintenant, si vous habitez dans un endroit où vous ne pouvez pas vous passer de la voiture, ou alors ce serait vraiment trop chiant, ce serait vraiment trop pénible, la voiture vous apporte vraiment une valeur dans votre vie, très bien, vous la gardez, mais ça ne vous empêche pas d'appliquer cette réflexion à d'autres objets. Est-ce que tous ces objets que vous possédez, est-ce que ça vous coûte de les maintenir dans votre possession et de les utiliser? Qu'est-ce que ça vous coûte? Pas seulement en argent, mais qu'est-ce que ça vous coûte en temps, en énergie, en espace, etc. Et vous allez voir qu'en réfléchissant de cette manière-là, vous allez peut-être commencer à vous dire que ça peut être sympa de vous débarrasser de certains trucs qui vous emmerdent la vie plus qu'autre chose. Ensuite, donc là, je vous donnais l'exemple d'une voiture qui est un objet particulièrement coûteux, mais la quantité même d'objets que vous possédez, même si indépendamment, il ne vous coûte pas grand-chose, c'est un vrai coût qui s'accumule. Comme je le disais plus tôt, si vous avez un logement qui est relativement grand et que vous stockez tout votre bazar dedans, est-ce que vous avez besoin de continuer à avoir une maison aussi grande? Est-ce que ce ne serait pas moins cher ou plus agréable d'avoir une maison plus petite parce que vous vous êtes débarrassé de la moitié de vos objets et que du coup, soit vous pouvez payer moins cher votre logement parce qu'il est plus petit, soit payer pareil mais vous permettre de vivre à un endroit où ça coûte plus cher en fait, au mètre carré. Donc ça, dans les deux cas, ça va améliorer votre qualité de vie d'une certaine manière. Et puis au-delà du coût du logement, si vous vivez dans un logement plus petit, c'est quelque chose qui vous permet de passer moins de temps au ménage, au tri, au rangement, à l'entretien quand le logement est plus petit. Alors si vous vivez déjà dans un petit espace, dans une grande ville par exemple, ça ne va pas particulièrement vous concerner. Personnellement à Paris, je ne vois pas trop comment je peux réduire la taille de mon logement. Mais par contre, le fait de posséder moins d'objets, ça vous permet de mieux circuler dans votre petit logement. Ça vous permet peut-être d'éviter d'avoir des meubles de rangement supplémentaires qui vous enlèvent une partie de votre espace précieux. Peut-être même que vous possédez un box de stockage si vous vivez dans une grande ville, dans un petit logement, parce que vous n'avez pas de quoi tout stocker. Et là, vous pouvez vous poser la question, est-ce que ces objets stockés valent le loyer que vous payez chaque mois pour garder ce box ? Donc ça, ce sont des questions qu'on peut se poser par rapport aux inconvénients de garder un trop-plein d'objets qui ne nous servent pas forcément. A l'inverse, il existe plein d'avantages à vivre avec uniquement les objets nécessaires, au lieu de stocker des quantités de choses inutiles qu'on a accumulées avec le temps. Et je pense qu'on a tous connu ça au fil des années, hein, surtout si on déménage peu, on finit par accumuler, c'est naturel. Alors au quotidien, c'est plus facile de ranger, organiser et nettoyer quand on possède moins d'objets. Vous pouvez posséder moins de meubles de rangement, ce qui fait des économies et ce qui vous libère de l'espace. Et effectivement, voilà, c'est plus agréable de pouvoir circuler dans une pièce qui a moins de meubles et se retrouver facilement dans les rangements qu'on a, retrouver plus facilement un objet qu'on a besoin d'utiliser à ce moment précis plutôt que de le chercher de partout. Là, je viens de vous parler des avantages concrets et quotidiens de désencombrer son intérieur et de vivre avec l'essentiel, avec ce que vous utilisez vraiment. Mais dans la simplicité urbaine, les bénéfices vont bien au-delà d'un simple rangement. C'est-à-dire que vous êtes amené à réfléchir à est-ce que cet objet qui m'encombre, qui me coûte du temps, de l'argent, est-ce que cet objet mérite que je le garde? Et quand vous commencez à réfléchir comme ça vis-à-vis des objets, ça va commencer à faire un début de remise en question de votre rapport à l'objet en général. Peut-être que vous allez prendre conscience que vous n'avez pas besoin de ces talons hauts, par exemple, pour être bien dans votre peau, par exemple. Vous avez peut-être conscience que vous n'avez pas besoin de cette vaste étagère de livres pour prouver votre érudition. Finalement, ça vous coûte trop cher de les garder par rapport à ce que ça vous rapporte. Et ça commence à établir une sorte de remise en question de la société de consommation et de remise en question du rôle que l'on donne aux objets dans notre quotidien. Donc on reparlera de tout ça dans d'autres émissions, puisqu'aujourd'hui on va se concentrer sur le désencombrement. Mais pour moi, c'est vraiment le sas d'entrée vers des réflexions plus globales sur le rapport à l'objet dans la société moderne. Passons ensuite à quelques idées concrètes pour désencombrer. En gros, le concept est de passer en revue tout ce que vous possédez et ensuite de vous demander si vous en avez besoin dans votre vie actuelle ou pas. Donc pour moi, il y a deux paramètres à prendre en compte. Qu'est-ce que signifie avoir besoin d'un objet ? Et qu'est-ce que c'est la vie actuelle ? Alors, que signifie avoir besoin d'un objet ? Pour Marie Kondo, qui est consultante en rangement japonaise et autrice du célèbre livre La magie du rangement, il s'agit de garder des objets qui vous apportent une étincelle de joie lorsque vous les tenez entre vos mains. Donc, ils vont vous apporter de la joie, soit par leur utilité, soit par la manière dont ils rendent votre vie plus agréable, soit par leur beauté, soit par les souvenirs qu'ils évoquent. En gros, l'idée, c'est pas de partir de l'élimination de ce dont vous n'avez pas besoin, mais plutôt de choisir ce que vous gardez, en fonction de cette fameuse étincelle de joie que vous apporte l'objet ou pas. Donc l'idée, ça va être de passer en revue tous les objets un par un, de les prendre dans vos mains, de vraiment avoir un vrai contact avec cet objet et de vous dire « Est-ce que cet objet m'apporte de la joie ?» Ça, c'est la définition de Marie Kondo pour définir si vous avez besoin de votre objet ou pas. Personnellement, j'aime bien la citation de William Morris qui dit « Ne gardez rien que vous ne sachiez utile ou que vous ne croyez beau. » Parce qu'en fait, dans la notion de garder ce dont on a besoin, peut-être qu'on pourrait craindre de se retrouver dans un intérieur un peu vide et un peu aseptisé. Genre, ok, on garde l'aspirateur parce qu'on en a besoin, mais par contre, le tableau au mur, allez, c'est pas utile, poubelle. Et on va se retrouver dans un intérieur vide, morne, sans vie, tout blanc, machin. Dans ma vision du désencombrement, c'est pas tout à fait ça. Pour moi, le tableau au mur vous est utile, parce que vous le trouvez beau s'il est là, sinon vous ne l'auriez pas accroché à votre mur. Il sert à décorer votre intérieur, il sert à vous sentir bien chez vous. C'est pour ça que j'aime bien cette citation de William Morris, où il parle à la fois d'utilité et de beauté. Par contre, si vous avez 10 tableaux stockés dans votre garage, qui sont dans un papier craft que vous ne voyez pas, que vous n'utilisez pas, et que tous vos murs sont déjà blindés de tableaux, là, vous pouvez peut-être vous demander si vous en avez besoin de ces 10 tableaux qui sont stockés, mais que vous ne voyez pas, et qui finalement ne vous apportent pas une amélioration de votre intérieur, puisqu'il est stocké, il n'est pas accroché au mur. Donc au final, ça va être à vous de décider ce que vous entendez par « besoin ». Si vous êtes assez peu attaché aux objets, à l'esthétique matérielle ou à la déco d'intérieur, peut-être que votre intérieur sera dépouillé et fonctionnel et que ça vous conviendra très bien comme ça. Personnellement, je suis assez sensible à l'esthétique de certaines choses, comme la céramique, les minéraux ou encore la peinture sur toile. Du coup, j'ai tendance à garder autour de moi des objets qui sont adaptés à mon utilisation quotidienne. Donc je ne vais pas garder par exemple une jolie tasse qui n'est pas fonctionnelle du tout. Mais j'aime bien, parmi ces objets qui me sont utiles et qui sont adaptés à mon utilisation, j'aime bien en choisir qui ont quand même une certaine esthétique, parce que c'est quelque chose à laquelle, personnellement, je suis sensible. Donc à vous de définir vos critères de besoin lorsque vous allez trier vos objets. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est quelle est ma vie actuelle ? Qu'est-ce qu'on définit par ma vie actuelle ? Est-ce que je dois tout virer, tout ce que j'ai pas utilisé la semaine dernière, ou est-ce que je dois garder des objets que j'ai depuis 10 ans parce que j'utilise éventuellement en vacances une fois tous les 5 ans, etc. Alors là, c'est une autre consultante en rangement japonaise qui s'appelle Hideko Yamashita qui parle de ça. Et donc dans son livre qui s'appelle Danchari, l'art du rangement, elle propose la notion du ici et maintenant. Pour elle, un objet n'est à garder que s'il vous est utile à vous, ici et maintenant. C'est-à-dire qu'un objet peut tout à fait être utilisable, mais ne pas vous être utile à vous. Donc ça va être à vous de définir la plage temporelle exacte de ce qu'on considère comme le maintenant. Par exemple, si vous skiez tous les hivers et qu'on est en août, vous allez bien garder vos skis, même si vous n'allez pas les utiliser ce week-end, parce que vous les avez utilisés l'hiver précédent, vous allez les utiliser l'hiver suivant, donc on peut dire que vos skis font partie du maintenant, même si vous ne les utilisez pas là au mois d'août. Donc vous pouvez définir votre propre plage temporelle du maintenant, notamment en fonction des saisons ou en fonction d'habitudes récurrentes que vous avez, qui ne sont pas forcément quotidiennes, mais qui sont suffisamment récurrentes pour que ça nécessite de garder les objets qui vous sont utiles à ces occasions-là. Mais l'idée va vraiment être de vous poser la question, parce qu'on a tendance à garder des objets qui soit étaient utiles à une époque, mais notre vie a changé depuis et en fait on n'en a plus besoin. Par exemple, des livres de cours qui datent de vos études, si vous avez fini vos études, vous n'en avez plus forcément besoin. Ou alors parfois on garde des objets qui sont en lien avec un futur hypothétique. C'est le fameux « ça pourra m'être utile un jour ». Je m'en sers pas maintenant, mais on sait jamais. Donc le fait de se poser la question du « ici et maintenant », ça permet de remettre en question ces objets qui sont finalement dans le passé ou dans le futur, mais qui sont pas forcément utiles maintenant. Alors, je vais revenir sur la notion du « ça pourrait être utile un jour » parce que j'aimerais placer un bémol là-dessus. Si vous avez déjà lu des ressources sur le minimalisme, vous en avez sûrement déjà entendu parler. La plupart de ces ressources-là conseillent de se débarrasser de tout ce qui, entre guillemets, pourrait servir un jour. Si c'est pas utile maintenant, poubelle. Alors, personnellement, j'aurais plutôt tendance à vous conseiller d'ajouter d'autres paramètres à votre choix. C'est-à-dire que vous avez tous ces objets qui seront peut-être utiles un jour, et plutôt que de tout débarrasser sans réfléchir, peut-être que vous pouvez rajouter des critères comme « est-ce que c'est facile de s'en procurer à nouveau ?» Parce que si effectivement vous en avez besoin un jour, et qu'en fait c'était un truc super rare, super collector, que vous n'arrivez pas à remettre la main dessus, bah ça va quand même vous emmerder la vie. Alors que le but de la simplicité, c'est de vous améliorer votre vie, de la rendre plus pratique, de passer moins de temps sur vos objets. Donc si derrière vous passez des plombes à essayer de retrouver cet objet que vous avez eu le malheur de vous débarrasser à un moment, c'est pas forcément utile. Un autre critère, ça pourrait être le coût de l'objet. Est-ce que c'est un objet qui coûte cher à remplacer? Est-ce que ça coûterait beaucoup d'argent d'en racheter un si vous vous en débarrassiez aujourd'hui? Et est-ce que cet argent, vous avez les moyens de le dépenser à nouveau ou pas? Donc si vous avez des moyens assez limités ou que ce sont des objets qui sont vraiment chers et que la probabilité que ce soit utile dans le futur est relativement élevée, peut-être que vous allez choisir de le garder plutôt que de vous en débarrasser. Un autre critère possible, c'est la place qu'il prend. Donc si vous habitez dans une grande maison avec une immense grange non utilisée, c'est pas très grave de garder un objet assez encombrant, même si vous n'êtes pas sûr de le réutiliser un jour. Par contre, si vous habitez dans un studio de 15 mètres carrés à Paris, peut-être que cet objet encombrant va vraiment vous pourrir la vie quotidienne parce que vous avez très peu de place, et que dans ces cas-là, c'est peut-être utile de songer à s'en débarrasser, même s'il pourrait vous être utile un jour. Voilà, donc ce que je voulais ajouter à cette réflexion autour du « ça pourrait être utile un jour », c'est de vraiment réfléchir à votre quotidien, votre espace, vos moyens, la probabilité que cet objet vous soit utile un jour ou pas, avant de décider si effectivement c'est un objet qui mérite d'être gardé ou pas. Enfin, pour terminer cette émission sur le désencombrement, je vous propose quelques méthodes concrètes pour vous y mettre. Marie Kondo suggère de trier par catégorie plutôt que par endroit de stockage. En rassemblant tous les objets d'une même catégorie que vous avez glanés dans toute la maison et rassemblés au même endroit, vous allez pouvoir voir combien vous en avez vraiment, si vous avez des doublons par exemple, et de quoi vous avez vraiment besoin pour ce type d'objet-là. En voyant toute votre collection, c'est plus facile de la réduire en fait. Alors dans son livre, elle présente de grandes catégories comme les vêtements, les papiers, ce genre de choses, mais vous pouvez très bien choisir une catégorie beaucoup plus précise si vous n'avez pas le temps de tout trier d'un coup. Par exemple, au lieu d'essayer de trier tous vos vêtements d'un coup, vous pouvez vous contenter de trier vos chaussettes si vous n'avez qu'une demi-heure pour ranger ce jour-là. Parce qu'en fait, contrairement à ce qu'on peut croire, la technique de rangement de Marie Kondo ne recommande pas de trier toute votre maison d'un coup, de rassembler d'énormes catégories dans votre salon et puis de poser une semaine de vacances pour tout trier. Vous pouvez tout à fait le faire au fil des mois, en fait, en prenant compte des moments que vous avez disponibles, certains soirs ou le week-end ou entre midi et deux ou je ne sais quoi. Et du coup, vous allez choisir des catégories d'objets qui sont plus restreintes ou plus vastes en fonction du temps que vous pouvez y consacrer ce jour-là. Ça, c'est une première méthode donc par catégorie d'objets. Une autre méthode, c'est celle de Hideko Yamashita, qui suggère, elle, de partir du temps que vous avez à disposition et de ranger un espace dans votre logement en fonction de ce temps que vous avez à disposition. Et en fait, l'avantage de faire ça, c'est que ce sont vos espaces visuels qui sont rangés petit à petit et ça vous donne une impression de progression, en fait, parce que vous commencez à voir des morceaux de votre maison qui sont bien rangés. Par exemple, si vous n'avez que 10 minutes pour ranger, vous pouvez trier votre portefeuille. Si vous avez 30 minutes, vous pouvez trier l'armoire de votre salle de bain. Si vous avez 2 heures, vous pouvez trier tous les placards de votre cuisine, etc., etc. Donc elle part du temps disponible, parce qu'évidemment, nous sommes tous dans une vie quotidienne assez chargée, et nous n'avons pas tous le luxe de pouvoir passer des journées entières sur le rangement de nos objets. Voilà, donc ça, ce sont deux suggestions parmi tout ce qui existe aujourd'hui comme méthode de désencombrement pour pouvoir trier tous les objets que vous avez accumulés au fil des années et ne garder que ce qui vous est essentiel. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de trouver la méthode qui va le mieux s'adapter à votre quotidien et à vos contraintes. En gardant en tête l'idée qu'il vaut mieux en faire un petit peu ici et là, plutôt que d'essayer de tout trier d'un coup et vous retrouver à baisser les bras et arrêter complètement parce que, concrètement, c'est difficile de se libérer 3 jours de rangement. Et puis, on n'a pas forcément envie de passer 3 jours à uniquement ranger quand on a enfin du repos au milieu d'un travail prenant. Enfin, je vais évoquer brièvement un dernier point. Que faire des objets dont vous avez décidé de vous séparer ? A priori, on peut se dire, je vais les mettre à la poubelle, c'est plus simple. Mais c'est pas forcément la solution la plus utile ou la plus écologique. Donc il existe plusieurs possibilités pour vous débarrasser des objets dont vous n'avez plus l'utilité. Si l'objet est en bon état et que vous avez un petit peu de temps pour organiser tout ça, vous pouvez les vendre. Donc via internet, par exemple sur Le Bon Coin et compagnie, via des magasins spécialisés comme Le Troc de Lille ou comme Gilbert Joseph pour les bouquins, vous pouvez participer à des vide-greniers par exemple. Donc c'est une méthode qui vous rapporte un peu d'argent mais qui prend du temps. Si l'objet est en bon état et que vous n'avez pas envie de prendre le temps de le vendre, vous pouvez le donner. Alors en ce qui concerne le don, je vous invite plutôt à vous tourner vers les œuvres de charité qui demandent ce type d'objet-là, parce que vous êtes sûr que l'objet va être utile aux personnes auxquelles vous le donnez. Je sais que quand on commence le minimalisme, on peut être très tenté de refiler nos objets à nos proches, parce que c'est plus simple en fait, on leur apporte un carton de bouquin ou un carton de livre, c'est facile et j'en suis moi-même tout à fait coupable, hein. Et le problème de ça, c'est que vos amis n'ont pas forcément envie de récupérer ces objets-là, ça leur est pas forcément utile. Peut-être qu'ils en ont pas besoin, peut-être que ça les intéresse pas, et peut-être que ça va les encombrer. Donc, je vous invite vivement à ne pas devenir ce minimaliste pénible qui apporte des objets à donner à toutes les réunions de famille ou à tous les dîners entre amis. Vous n'êtes peut-être pas le ou la seul à vouloir désencombrer votre intérieur. Donc à ce moment-là, ce que je vous invite plutôt à faire, c'est à laisser le choix, mais vraiment le choix. C'est-à-dire qu'au lieu d'amener un sac d'objets chez vos amis, vous pouvez dire voilà, j'ai tout un tas d'objets dont je ne me sers plus, que je vais aller apporter, que je vais aller vendre, que je vais aller donner, etc. Et puis ben, la prochaine fois que vous venez à la maison, je vous invite à regarder. Et s'il y en a qui vous intéressent, vous les prenez. Si ça ne vous intéresse pas, vous ne les prenez pas. Donc en fait, ça vous permet de faire bénéficier de ces objets-là qui sont encore en bon état à vos proches si vous pensez que ça peut vraiment leur être utile, et en même temps leur laisser le choix de ne pas prendre les objets s'ils n'en ont pas besoin. Et évidemment, la solution pour donner vos objets, ça reste tout ce qui est œuvres caritatives, associations. Des fois, il y a des choses qui sont organisées pour justement apporter les objets dans des bennes à dons, entre guillemets, où ça va par exemple des jouets qui vont être réutilisés pour les Noëls des enfants qui n'ont pas beaucoup de moyens, ce genre de choses. Et en plus, l'avantage de l'option don, c'est que ça, à une œuvre de charité en tout cas, c'est que ça apporte en plus une notion de contribution sociale, etc. Moi, je sais que j'aime beaucoup utiliser l'option de donner à des œuvres caritatives quand j'ai des objets à me débarrasser. Ensuite, donc il y a la solution où les objets ne sont pas en bon état. Dans ces cas-là, vous pouvez essayer de les réparer avant de les jeter. Vous pouvez essayer de détourner leur usage, c'est-à-dire les changer un petit peu la manière dont ils sont, utiliser votre créativité pour changer cet objet de manière à ce qu'il vous soit utile d'une autre manière. Ou bien vous pouvez recycler l'objet, et en dernier recours, vous pouvez évidemment le jeter. Alors, ça prend du temps de se débarrasser des objets dont vous ne voulez plus, et d'ailleurs, en tout cas d'expérience personnelle, c'est peut-être même plus pénible à gérer que le tri en soi. C'est-à-dire que vous vous retrouvez avec des sacs d'objets dont vous n'avez plus besoin, dont vous voulez vous débarrasser, et c'est pénible de le faire. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est piocher parmi les options dont je vous ai parlé, de vous renseigner pour voir ce qui existe comme option concrète autour de vous, et de choisir finalement l'option qui va être la plus simple à mettre en œuvre en fonction de vos contraintes aussi. Donc par rapport au temps que vous pouvez y consacrer, par rapport à ce qui est disponible près de chez vous, selon si vous avez une voiture ou pas, selon si vous avez envie de les garder quelque temps, le temps de trouver des vendeurs, enfin ce genre de choses. N'essayez pas d'être absolument parfait ou parfaite dans la manière de vous débarrasser de vos objets. Trouvez quelque chose qui soit un équilibre, un bon compromis entre vos valeurs éthiques, vos possibilités, le temps que vous avez, etc. L'idée derrière tout ça étant de prendre le temps de vous en débarrasser et de ne pas les garder sur les bras parce que vous avez la flemme de vous en débarrasser. Pour la ressource du jour, je vais vous rappeler les deux livres que j'ai cités au fil de l'émission. Donc La magie du rangement par Marie Kondo, qui a publié d'autres livres par la suite si ça vous intéresse, et Danchari, l'art du rangement par Hideko Yamashita. Donc ce sont deux consultantes en rangement japonaises qui orientent leurs livres vers le désencombrement avant l'organisation des objets que vous avez chez vous. Et qui ont des recettes, des conseils, des choses comme ça à apporter dans le livre. Donc si vous avez envie d'aller plus loin, je vous invite à lire ces deux livres. Et par contre, je vous invite à sélectionner parmi tous leurs conseils ce qui vous paraît utile à vous. Parce que parfois, ça peut donner l'impression d'être des conseils assez rigides et assez... qui prennent pas en compte finalement vos contraintes à vous et votre vie à vous. Et vous pouvez peut-être être tenté de vous dire « Oui, mais enfin bon, là c'est n'importe quoi, ça me concerne pas ». Plutôt que de considérer leurs recettes comme argent comptant et de les appliquer à la lettre, je vous invite à prendre ce qui vous intéresse, laisser ce qui ne correspond pas à votre vie et vous aurez peut-être des pistes pour vous aider à ranger votre intérieur. L'émission de Simplicité sur le désencombrement touche maintenant à sa fin. J'espère que vous avez apprécié votre écoute et que vous en tirez quelque chose d'utile pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire ou à le passer le mot à vos amis. L'émission Simplicité est mensuelle et je dévoile le thème de la prochaine émission dans les notes de celle-ci sur le site simple-cite.com/011. Dans ces notes, vous retrouverez aussi les idées principales abordées aujourd'hui ainsi que les ressources que j'ai citées. Je vous souhaite une excellente journée, une merveilleuse soirée, merci infiniment de m'avoir écouté jusque-là et à la prochaine !